Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
De connaître le temps. Bonjour! Une amie qui vient de loin, du Mexique, qui revient après un mois de voyage, ou trois semaines, un mois? OK, fait que tu as été parti trois semaines? Quatre semaines, hein? Mais pour Eric, c'était bien plus long que ça. Hein? OK, fait que on va juste baisser ça un petit peu dans la salle. Merci, Sylvain. Pat, il nous disait que c'était important de connaître les temps dans lesquels qu'on est. Et puis, il disait qu'on était dans un ère de post-vérité. Ça veut dire que la vérité, il était un temps, il disait, le pré-moderniste, c'était un temps où la vérité existait, il fallait la trouver. Après ça, il y a eu le modernisme. On s'est concentré pas vraiment sur ce qui était vrai, mais ce qu'on était capable de vérifier au moins. Tout ce qu'on pouvait vérifier, c'était vrai. Là, il nous disait dans son vidéo qu'après ça, il est devenu le postmodernisme où la vérité, on ne sait plus trop c'est qui l'a. Elle existe, mais on n'est pas capable de la trouver. Ça a fait naissance à l'agnosticisme. Ça, c'est il y a sûrement quelque chose, mais on n'est pas capable de le prouver. Puis là, on serait dans un ère de post-vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle existe, probablement, mais on s'en fout. On s'en fout. Puis il nous disait comment c'était important d'étudier la parole de Dieu, parce que la vérité existe en tant qu'absolue. On a besoin d'être modelé, pas par le monde, pas par la pensée de ce siècle. Le monde qui récemment aux nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais l'âge pour défendre si la personne a reçu, elle était consentante à avoir du sexe en France, est rendu à l'âge de 5 ans. Ça veut dire si l'enfant ne s'est pas débattu ou il n'a pas démontré qui ne voulait pas se faire abuser, il était consentant, imaginez-vous, à l'âge de 5 ans. C'est comme, c'est un monde qui ne pense pas correctement. Puis l'Église, elle a besoin, elle est appelée par Paul à Timothée, il va dire que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Fait que c'est l'endroit où on est formé, c'est là où on prend des cours, c'est là que semaine après semaine, on étudie la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'étincelle qui a allumé mon message, c'est le verset 56 et 58 de Matthieu 13. Jésus était pour eux une occasion de chute et Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Père, je te prie de bénir ce message. Je prie, Seigneur, que tu vas être avec ma bouche, Seigneur Dieu, puis que tu vas nous réveiller si on dort. Tu vas nous réveiller d'entre les morts. Pour que Christ nous éclaire, pour qu'on puisse réaliser des temps dans lesquels qu'on vit, puis qu'on puisse réaliser l'importance d'être sage, puis de comprendre ton plan dans les temps dans lesquels on vit. Au nom de Jésus. Amen. Ce passage-là, ça se passe dans le village où ce qu'on a vu le petit gars Jésus grandir, le fils de Marie. Probablement son père, il est mort quand il était jeune. Puis Jésus a aidé sa mère et ses jeunes frères à survivre dans ce village-là. Fait qu'on se dit, il est dans son village, puis le texte dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. J'ai cherché ce passage-là parce que je trouvais ça intéressant, toute l'idée que même si Dieu est tout-puissant, même si Dieu règne dans les cieux et sur la terre, Dieu agit en présence de la foi. Puis c'est pas parce que Dieu agit pas qu'il peut pas agir, qu'il est pas capable d'agir, mais c'est parce que la foi, c'est ce qui permet à Dieu de faire une action dans nos vies. Puis on va le voir illustré aujourd'hui. Donc, le petit gars, ça peut pas, c'est le petit gars à Marie, ça peut pas être le sauveur du monde, hein. Fait qu'il y a eu un manque de foi. Les mercredis, on parle beaucoup de la foi et de la prière ces temps-ci. Puis on parlait mercredi justement du défi qu'on a lorsqu'on prie. Des fois, on prie et on a l'impression qu'il ne nous entend pas ou on a de la misère à se concentrer lorsqu'on prie. Puis on parlait de s'encourager ensemble. Puis dans notre groupe, après que la réunion est terminée, on a continué à parler de ça. Puis la Bible nous dit que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il existe puis qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Puis encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la Bible, vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on aura besoin de revenir à la parole pour la nourrir et la fortifier. Puis j'essaie de parler du nom de Dieu aussi parce que tout commence par connaître Dieu, son caractère. Puis tu sais, la prière dans notre Père, le nom de Dieu, il vient au début. Fait que chercher quelque chose autour de ça là, pour nourrir la foi. Et puis finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder le contexte de ce verset-là, puis reculer en arrière, faire la péricope du verset, c'est-à-dire aller tout autour, aller creuser autour, puis aller voir dans quel contexte que ces choses-là ont été dites. Alors, dans le chapitre 13, c'est plein de paraboles. Fait que ça va être une série sur les paraboles. Et puis aujourd'hui, je vais faire une introduction à la notion des royaumes, 5 facettes concernant les royaumes. Les versets qui vont être couverts par ces paraboles-là dans la série, c'est Matthieu 13, 1 à 53, Marc 4, 1 à 34 et Luc 8, 4 à 18. Fait que vous allez voir des histoires qui se chevauchent. Moi, mon rôle, c'est pas de vous dire tout ce qu'il y a dans ce chapitre-là, c'est de vous équiper à comprendre c'est quoi une parabole, qu'est-ce que Jésus veut faire avec les paraboles, puis comment on peut devenir plus sage avec ces paraboles-là pour comprendre les temps dans lesquels qu'on est. Fait qu'aujourd'hui, si dans notre tête, j'ai pu exprimer qu'est-ce qu'une parabole et aussi pourquoi elles ont été données, puis si à la fin du message, vous avez une notion plus claire des royaumes, des 5 facettes du royaume de Dieu, ben, je vais avoir réussi mon message. OK, on va lire les versets 1 à 3. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc, c'est un changement de méthode. Dans les évangiles, avant Matthieu 13, vous ne voyez pas Jésus parler en parabole. C'est une nouvelle méthode d'enseignement, mais la méthode de Jésus pour communiquer les informations importantes concernant son royaume et comment comprendre dans le temps dans lequel on vit, c'est l'enseignement. On ne s'en sort pas, Jésus enseigne. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé au chapitre 12, et là on devrait revenir au chapitre 12, mais je vous le résume. Il s'est passé que le Sauveur du monde a été rejeté par son propre peuple. Hein? Et donc, juste avant de voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, on va parler un peu des paraboles. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, je pensais que je l'aurais à l'écran. Une parabole, c'est un enseignement sur une expérience de vie. OK. Et ça apporte une vérité qui est soit morale, soit spirituelle. Donc, ça touche à quelque chose que tu vis dans la vie de tous les jours. Puis, c'est quelque chose soit de morale, soit de spirituel. Il y a 4 types. Comment ça que ça apparaît pas, ça? Ah oui, c'est ça. Il y a 4 types. Il y a des comparaisons. Par exemple, quand Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », ben, c'est une comparaison. Faut pas le prendre au sens littéral nécessairement. Il y a les métaphores. Les métaphores, c'est, par exemple, Jésus dit « Je suis la porte. Nul ne rentre dans le royaume de Dieu que par moi. » Ou il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ma chair va vivre. » Tu sais, quand il va parler du pain. Il y a des similitudes aussi. La similitude, c'est quelque chose qui est comparé à un geste quotidien comme une madame qui pétrit du pain, qui est en train de faire de la pâte, tu sais. Fait que là, Jésus va dire, il y avait une femme qui prenait de la pâte, puis là, il y a eu du levain qui est venu dedans, puis ça a fait lever toute la pâte. Tu sais. Mais c'est des choses qu'il voyait à tous les jours. Donc, c'est des similitudes à quelque chose qu'il vivait à tous les jours. Puis, il y a aussi des histoires, comme l'histoire du bon samaritain qui a ramassé l'homme qui avait été laissé sur le bord du chemin. C'est des histoires courantes, quelque chose qui pourrait se passer, mais c'est pas arrivé. C'est juste pour nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner. Il n'y a pas d'allégorie dans la Bible, c'est-à-dire des allégories, c'est quelque chose de fictif Genre, je sais pas moi, il s'est arraché le bras, puis il a couru 2000 kilomètres, puis là, il a été enlevé dans les cieux. Tu sais, des affaires qui sont spatiales ou qui sont fictives. C'est réaliste, comme des bons films à TV. Tu sais, moi, j'aime pas les science-fiction, c'est pour ça. Bon, il y en a qui aiment ça. Donc, les histoires que Jésus utilise pour passer des vérités réelles, ben, elles sont proches de quelque chose de réel, de quelque chose qui se passe dans la vraie vie. Il y a trois raisons pour lesquelles Jésus utilise les paraboles. Premièrement, c'est pour illustrer. Dans le verset 34 de Marc 4, il dit « Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Donc, quand il parlait devant tout le monde, il parlait en paraboles, puis après ça, il se retrouvait en privé, puis il expliquait les paraboles en privé. Si on peut m'écouter, j'apprécie. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle il faisait ça comme ça, c'était pour cacher le sens des vraies choses aux masses. À partir de Matthieu 13, il ne dit plus les choses pour être compris, il dit les choses pour les cacher afin de les expliquer en privé à ceux qui sont ses disciples. C'est un petit peu lié avec le prochain point que je vais apporter. Il veut accomplir la prophétie d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe 6, 9 à 10, qui dit, Jésus va la citer ici. Quand les disciples disent, pourquoi tu nous parles en parabole? Jésus va dire, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il s'est passé quelque chose en Israël, c'est que le cœur des Israélites s'est endurci. Leurs oreilles se sont fermées, leurs yeux se sont fermés et leurs oreilles se sont fermées de peur qu'ils croient, puis de peur qu'ils se convertissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus a fait les trois miracles qu'un le Messie pourrait faire. Guérir un aveugle né. On disait que cette personne-là avait donné un coup de pied à sa mère dans le ventre de sa mère, puis qu'il avait besoin de pardonner pour ça. C'est pour ça qu'il était aveugle. L'autre, c'était un lépreux. Personne guérissait un lépreux. Un lépreux ne se guérissait pas. Pourtant, dans Deutéronome, il y a toutes les procédures à faire lorsqu'un lépreux qui va être guéri, mais un lépreux ne se guérissait pas. Et c'était en prévision du Messie. Il se disait, regarde, quand le Messie va venir, lui, il va les guérir. Là, il fallait aller se montrer au sacrificateur, puis après ça, revenir, puis là, faire une procédure, tu sais. Ben Jésus, à un moment donné, il a envoyé un fax. Il en a envoyé 10 d'une shot. Tu sais. C'est comme, ils sont allés voir les sacrificateurs. Et là, ça a fait un message. C'est comme, tic, 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 il y en a 10 qui sont allés. Là, tu sais. Puis, il y a aussi, c'est quoi le troisième miracle déjà? Seul le Messie pourrait faire ce miracle-là. L'aveugle né, je l'ai dit, le lépreux. Ça a un rapport avec chasser des démons? Oui. Le sourd et muet, parce que chez les Juifs, l'exorcisme se passait par la discussion. On discutait avec la personne, on finissait par parler avec le démon, puis on le kickait out. Mais là, on ne pouvait pas, à cause qu'il y avait sourdité et mutisme. Mais Jésus, lui, le Messie, quand il viendrait, lui, il ferait ça. Et il a fait ces trois miracles-là, puis justement, c'est ce dernier miracle-là qu'il va faire dans Matthieu, chapitre 12. Puis là, les enseignants, les hommes de la loi, ceux qui sont supposés de connaître, et ceux qui ont écrit aussi, ou qui essayaient d'observer les écrits, pas de la Bible, mais des rabbins qui avaient dit « Le Messie va faire ces trois choses-là. » Eh bien, ils ont dit « Ce gars-là, il est possédé par le chef des démons. » Et il fait ses miracles par la puissance de Satan. Et là, Jésus a tracé une ligne à ce moment-là. On appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est une personne juive qui habitait au temps de Jésus. Et ce n'est pas une personne, c'est une nation qui a rejeté son Messie. Okay? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu qu'est-ce qu'il a fait. Puis ils ont décidé de fermer leurs yeux plutôt que de l'accepter. Et ça, ça a été le blasphème. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a commencé à parler en parabole pour que leur cœur ne comprenne pas. Il a commencé à parler en parabole pour que leurs yeux ne voient pas et que leurs oreilles n'entendent pas. C'était l'accomplissement de la prophétie qui est en train de se passer. Là. Et Jésus l'explique, je vous parle en parabole parce que il faut pas qu'ils comprennent. Il y a une raison pourquoi il ne faut pas qu'ils comprennent, c'est que ce peuple-là a rejeté. Maintenant, ce n'est pas en tant qu'individu mais en tant que nation, que ce jugement-là est tombé sur la nation. C'est pour ça qu'un Juif, individuellement, pouvait quand même croire au Seigneur Jésus. Donc, à partir de Matthieu 12, Jésus, il va commencer à parler de son royaume spirituel qu'il va établir dans l'Église. Okay? Et il va reporter à plus tard les discussions de son royaume sur la terre, quand il va revenir sur la terre plus tard. Et donc, ces discussions-là, dans Matthieu 13, c'est des discussions à propos, les enseignements, les paraboles du royaume, ce sont les enseignements de l'ère dans laquelle nous vivons présentement. Donc, c'est très pertinent pour qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plus que des illustrations, c'est bien plus que qu'est-ce que je pourrais bien utiliser comme image pour... C'est vraiment une réalité. C'est pas juste une vérité qui nous est montrée, mais une réalité de ce que l'Église va vivre dans notre période. Et donc, c'est très pertinent pour aujourd'hui. Le mot « royaume de Dieu » est important. Il y a 5 facettes. S'il y avait un diamant, où c'est comme 5 faces à son royaume. Avant de voir ça, je veux juste qu'on voit un synonyme. Vous avez « royaume des cieux » dans la Bible. Matthieu utilise « royaume des cieux ». Et quand vous lisez Luc et Marc et Jean, vous voyez « royaume de Dieu ». La raison pour ça, c'est parce que chez les Juifs, le nom de Dieu était trop saint pour être prononcé. Alors, on disait toujours, on l'appelait le nom, Hachem, ou Adonai, qui veut dire Seigneur, comme un titre, ou Adoshem, qui veut dire le Seigneur du nom. Donc, on appelait le nom. Je loue le nom. Je cherche le nom. Le nom, OK, c'était Dieu. On l'appelait le nom. Quand on écrivait une phrase, on écrivait le nom. OK? Ou on l'appelait ciel, qui est Shemaim. OK? Et même encore sur les sites juifs, en anglais, vous avez, ils vont écrire Dieu comme ça ici, G-D, pour pas prononcer le nom de Dieu. Okay? Parce que l'idée, c'était de pas prendre son nom en vain. Donc, c'est quand même important de voir que royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est synonyme, c'est interchangeable, ça veut dire la même chose. Maintenant, on va regarder ces 5 facettes ensemble. Les 5 facettes du royaume, il y a d'abord le royaume éternel de Dieu, le royaume spirituel. Je vais aller revenir sur chacun. La théocratie, le mystère, le royaume du mystère, puis le millénium. Fait qu'aujourd'hui, on va voir ces 5 points-là, puis on devrait avoir une meilleure vue de tous les temps, là, de l'éternité passée à l'éternité future. Donc, premièrement, on va voir le royaume éternel. Bon, le mot éternel est utilisé... parfois pour dire quelque chose qui est perpétuel ou de très longue durée, ça peut vouloir dire sans début ni fin. Par contre, philosophiquement, quand Dieu avait personne sur qui être roi, était-il le roi de quelqu'un? Était-il roi? Donc, on peut penser que son royaume a commencé à la création, dès qu'il était, il y a eu quelque chose d'autre que la Trinité. En tout cas, l'emphase n'est pas nécessairement mise sur le fait que c'est pas avec sans début ni fin, mais que c'est quelque chose qui est tout englobant, qui ne se termine pas. L'emphase, c'est qu'il dépasse tous les âges. Oups. C'est un royaume. Son royaume dépasse tous les âges, puis tous les royaumes. Il est au-dessus de tout royaume. Regardez ce passage-là. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Donc, pendant que ça chlingue sur la terre, on voit Dieu assis sur son trône. Il est au-dessus de tout. Il est tout puissant. Il est tout connaissant. Tout ce qui se connaît, il le sait. Il n'était pas surpris qu'il y ait un déluge. C'est même lui qui l'a commandé. Psaume 115:16 dit « Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. » Dieu a donné la terre aux hommes, mais ça ne dérange pas que lui est quand même au-dessus des royaumes de la terre. Dans Daniel, il dit que Dieu est assis sur son trône éternel et il met en pouvoir, il peut élever l'homme le plus vil de la terre à être le plus élevé. Il parlait probablement de Nebuchadnezzar dans ce temps-là. J'ai pas vérifié, c'est pour ça. Mais Dieu est donc, même s'il a donné la terre aux hommes, il peut intervenir dans l'histoire des hommes, Puis, il y a son trône qui est bien au-dessus, il est suprême, c'est le royaume éternel qui englobe tous les royaumes. Il demeure le Dieu suprême par qui et pour qui tout a été créé. Deuxièmement, il y a le royaume spirituel. C'est sûr que ça commence à partir du moment où les premiers hommes sont créés jusqu'au dernier homme créé possible. C'est le règne de Dieu sur le cœur d'un individu. C'est Dieu qui règne sur les choix et sur la volonté, sur les émotions, sur l'intellect, qui est le roi d'un sujet, on pourrait dire ça comme ça. Donc, de tous ceux qui ont cru, de Adam jusqu'au dernier humain créé, et durant l'ère de l'Église, durant la période qu'on est ici, on a en plus le privilège d'être né de Dieu et d'être de nouveau, d'être habité par la personne de Dieu. C'est le seul temps dans l'histoire de toute la création que Dieu habite en une personne. Fait qu'il n'est pas juste en train de régner sur la personne, mais il règne et son siège de commande, il est à l'intérieur de nous. Dieu règne à l'intérieur du croyant, par nouvelle naissance. Pour pouvoir voir le royaume, quand que Jésus parle à Nicodème, puis Nicodème va le voir, Jésus dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, Nicodème, s'il est né de nouveau, qu'est-ce qu'il a vu? Il aurait vu le royaume spirituel. Il n'a pas vu une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il n'a pas rien vu de ça, mais il a vu le royaume de Dieu. Si vous avez reçu la vie éternelle, vous avez vu le royaume de Dieu. Alors donc, le royaume de Dieu n'est pas juste quelque chose qui est physique, mais c'est quelque chose qui est aussi spirituel, qui nous appartient. Par exemple, dans Matthieu 6, au verset 33, c'est écrit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, c'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est une place à laquelle il faut aller? Non. C'est un royaume spirituel. Donc, c'est un royaume où Jésus-Christ prend règne sur mon cœur et c'est accompagné de sa justice. C'est en parallèle avec sa justice. Chercher à marcher dans cette justice-là du royaume de Dieu. Hein? Jésus qui produit sa justice parce qu'il règne sur notre cœur. Dans Colossiens 1:13, c'est écrit qu'on a été transporté des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Est-ce que c'est un lieu? Non, c'est un règne. C'est un règne. Et c'est aussi pas parce que c'est pas un lieu que c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas vrai. Marie-Ève se prépare à un cours biblique, ça s'appelle « Le chrétien et les choses invisibles ». Paul dit dans 2 Corinthiens, les choses visibles sont pour un temps, les choses invisibles sont éternelles. Hein? Ésaü, pour un bol de soupe, il a échangé toutes ses bénédictions parce qu'il voulait avoir quelque chose de visible. Israël s'est fait des statues en or, il voulait avoir quelque chose qui touche, il voulait avoir un bien qu'il possède. Puis il disait, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'homme est attaché à ce qu'il regarde, à ce qu'il touche, mais c'est pas passé invisible que c'est pas existant. Et donc le royaume de Dieu, Galate va dire, c'est dans Romains 14, 17, il va dire que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, et la joie par le Saint-Esprit. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur quand il va venir régner sur la terre? Qu'est-ce qu'il va établir? C'est quoi qu'il va faire? Il va amener la paix. Il va avoir une justice. Puis il va avoir la joie de sa présence. Et c'est drôle que le croyant a la paix, la justice, puis la joie par le Saint-Esprit. Comme c'était un dépôt d'avance pour dire l'état que je te donne, c'est ce qui va aussi être l'environnement dans le futur. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est un royaume spirituel et pas parce que c'est spirituel que c'est pas réel. Nous, on doit juste se rentrer ça dans la tête. Ensuite, il y a... Je l'ai dit tantôt. Il y a le royaume théocratique. Le royaume théocratique, c'est Dieu qui vient régner sur une nation. Il choisit un peuple, puis il se met roi sur cette nation-là. Il l'a fait pour Israël, et c'est la seule nation avec laquelle il l'aura fait, et il ne le fera jamais. Ça se passe depuis Exode chapitre 2 jusqu'à 2 Chroniques 36. De Exode 2 à 2 Chroniques 36, Dieu est le roi d'Israël. Ça se fait de deux manières. Premièrement, ça se fait de façon médiatorial, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui va dans la tente, parle à Dieu, Dieu lui dit quoi faire, il s'en va devant le peuple, il dit au peuple quoi faire. C'est Moïse. Moïse était médiateur pour le peuple. Puis ça se fait de façon monarchiale, c'est-à-dire qu'il y a des rois, mais là Dieu leur donne des prophètes à côté pour les nourrir pareil, mais c'est le roi qui dirige et c'est Dieu qui dirige la nation par des rois comme ça. Donc ça s'est passé de Moïse de façon plus médiateur et les rois jusqu'en 586 avant Jésus-Christ. Et ça a été interrompu quand il y a eu la déportation de Jérusalem et de Juda, dans le fond, la partie du sud d'Israël qui a été amenée à Babylone. Donc ça s'est arrêté là, le royaume théocratique, Dieu qui règne sur une nation. Là, si on regarde l'histoire un petit peu, Dieu a régné sur une nation. Puis là, ici, il ne se passe plus rien. Il y a toujours possibilité d'être un croyant puis d'avoir Dieu qui règne sur notre cœur. Dieu est toujours dans les cieux puis il règne. Mais il se passe quelque chose ici, c'est qu'avec le déclin du royaume théocratique, c'est-à-dire Dieu qui dirige par un peuple, eh bien, il a commencé à avoir ici des prophètes qui ont commencé à dire que ça va être le Messie qui va venir régner. C'est le Messie qui va venir régner sur la terre. Et là, si tu étais un juif dans le temps de Jésus, ton aspiration, c'était que le Messie vienne établir son royaume sur la terre. Anne, qui était dans le temple, quand Jésus a été présenté au temple après 8 jours, Anne, c'était une veuve qui était là et elle était une prophétesse. Puis quand elle a rencontré Marie, Joseph et le petit, elle a commencé à aller voir tout le monde. Puis elle a dit, c'est écrit, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait cette idée aussi que si Jésus vient, il va établir son royaume, puis ce ne sera plus les Romains qui vont régner sur nous. Il va venir nous délivrer. Fait que l'aspiration, c'était d'avoir un Messie juif. Et donc, ce qu'on attend ici, c'était ami pour millénium. On attendait un règne, le règne du Messie ou le règne millénaire. On l'appelle aussi le règne messianique. Le Messie était pour être un descendant de David, comme les descendants ici du trône, était pour être un descendant du trône de David qui allait régner sur le monde et sur Jérusalem, et sur le monde et sur Israël, excuse-moi. Puis, ça allait durer 1000 ans. Heureux les saints dans Apocalypse 26. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ici, on parle de l'Église qui va régner avec Jésus pendant une période de 1000 ans. Un synonyme aussi de ce royaume-là, c'est le royaume davidique. Et écoutez bien ça. Puis ça, là, c'est exactement ce qui s'est passé à Nazareth, puis c'est ce qui peut se passer dans notre vie, à nous autres aussi, mais pas tout à fait comme ça, mais on va essayer d'en tirer une application. D'abord, regardons ce qui s'est passé en Israël. Jean-Baptiste, il est là, puis il est celui qui annonce le roi qui s'en vient. OK, donc... OK. Jean-Baptiste disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça ici, cette montagne-là, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Ça, on pourrait dire, c'est son règne messianique. C'est le fils de David qui vient régner sur la terre. Ailleurs, dans Daniel, on voit littéralement que c'est l'Éternel qui vient régner sur la terre. Fait que Jean-Baptiste, il dit, « Hey, c'est proche, là. Le royaume est proche. » C'est sûr que le roi représente le royaume, puis Jean-Baptiste, qui était un cousin de Jésus, savait que ça s'en venait, qu'il allait, le roi allait être manifesté, mais qu'est-ce qui était proche aussi? C'était le règne millénaire. C'était le règne de Christ sur la terre. Jésus lui-même disait, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il envoyait ses disciples deux par deux, puis il leur disait, le royaume de Dieu est proche. Et donc, il y avait la venue du Messie, son règne. Le règne millénaire. Très intéressant. très intéressant. Mais l'offre du royaume est rejetée par les Juifs. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? OK. Comment ça que ça ne se passe pas? Ah, oh, moi, ah oh, oui, elle marche. Ouais, ouh! C'est le fun, hein? Je recommence. Ouh! OK. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'offre est rejetée. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Donc, on a la promesse d'un royaume millénaire ou d'un royaume physique où le descendant de David va venir puis il va rétablir l'ordre sur la terre. Le royaume est enlevé. Hein? Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, il est enlevé pour la raison suivante. Jésus a été traité de Belzébul, chef des démons, qui a fait ses miracles par la puissance de Satan, et alors qu'il a accompli toutes les prophéties qui annonçaient le Messie, on a fermé les yeux, on a fermé les oreilles, puis on a dit non, c'est pas le Messie. Et donc, Jésus, à partir de Matthieu 13, se tourne, puis il va passer à une nouvelle ère, ça s'appelle l'ère du mystère. L'ère du mystère, elle intervient exactement dans un endroit où ça n'avait pas été annoncé d'avance. Pourquoi ça n'a pas été annoncé d'avance? Parce que ça n'existait pas. Le choix libre et éclairé de l'homme devait accepter ou rejeter le Messie. Et ce qu'ils choisissent de faire, c'est de le rejeter. Et donc, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ dit, OK, parfait. Une personne ici ne veut pas de moi, ou une nation ne veut pas de moi, comme étant le successeur de David qui vient régner sur cette nation-là. Pas de problème, je vais me tourner. Puis ici, le royaume de Dieu va être enlevé et donné à un peuple qui en produira les fruits. C'est pas l'Église. C'est une autre génération, c'est un autre peuple. C'est les Juifs. Je pense que je vais l'avoir à la prochaine à cette heure. Donc, ici, il y a le rejet, mais il y a une autre génération de Juifs qui, eux, vont l'accepter comme le Sauveur. Ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé. Et quand les Juifs, dans les trois derniers jours de la Grande Tribulation, vont accepter qui il est et ce qu'il a fait pour eux, il va venir régner sur la terre et c'est là que va commencer. Mais entre les deux, il y a cette ère-là qu'on appelle l'ère du mystère. Et ça, c'est le dernier qu'on veut voir aujourd'hui. Le royaume du mystère. C'est quelque chose, OK? Le mystère, c'est pas quelque chose que tu comprends pas, que tu as de la difficulté à comprendre. Le mystère, c'est quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament avant. Si cet œil-là représente les prophètes de l'Ancien Testament, la seule chose qu'ils voyaient, eux, c'est une grosse montagne. Comme quand tu regardes des montagnes comme ça. Si tu te tournes de bord, tu vois qu'il y a une distance, mais comme ça, tu ne vois pas. Eh bien, les prophètes de l'Ancien Testament, ils voyaient un Messie, fils de Joseph, puis un fils de David qui venait régner. Mais il n'y avait aucune idée de cette distance entre les deux montagnes. Elle était prévue certainement, mais elle n'était pas officielle. C'est eux qui ont leur rejet, qui ont distancé cette montagne-là. Il n'y avait aucune idée et donc c'est un mystère. Un mystère, je vous rappelle, c'est pas quelque chose qui est pas compréhensible, c'est quelque chose qui était caché, que c'était pas possible de le voir, puis que là, ça a été dévoilé. Comme s'il y avait une couverte ici, puis vous pouviez pas le voir, puis à un moment donné, je l'enlève, puis je dis, ah, ben oui, c'était un pupitre qu'il y avait là. Ben, c'est la même chose ici. C'est quelque chose qui était pas dévoilé, qui était pas compris parce que c'était pas expliqué, les prophètes pouvaient pas savoir. Donc, l'ère du mystère, c'est l'ère actuelle, mais c'est aussi l'ère de l'Église, mais c'est aussi la grande tribulation. C'est une période qui fait partie de cette ère-là. Quelque chose qui n'est pas révélé dans l'Ancien Testament et qui a été dévoilé dans le Nouveau Testament pour la première fois. Matthieu 13, 11, il le dit, Jésus dit, « Parce qu'il vous a été donné... » Quand il a dit, « Pourquoi? Pourquoi tu parles en parabole? » Ben, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Vous avez été donné de connaître ce qui avant était caché à propos de le royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. Donc, ça continue à rester caché, ça continue à rester voilé pour ceux qui refusent de croire. C'est une période qui dure un temps limité. Puis là, c'est bien important ici, les paraboles de cette ère-là, des paraboles les paraboles vont concerner ça. Donc, dès mon prochain message, on va regarder des paraboles qui concernent la période ici. Et ça représente le christianisme visible. Non pas seulement les croyants, mais les non-croyants, ceux qui sont des croyants et ceux qui paraissent en être. Okay? Ceux qui grandissent vite et qui ont l'air d'avoir du succès, puis ceux qui ont du succès. Jésus va comparer, il va dire le malin, il va venir puis il va semer de l'ivraie dans un champ où il y avait du blé. Donc le blé, ce sont les fils du royaume. Les livrets, ce sont les fils du malin. Puis à la fin, Dieu il va passer puis il va enlever le fils du malin puis il va le jeter dans le feu. Puis il va prendre le blé avec lui. Donc il nous montre que cette ère-là, c'est un ère où c'est le christianisme visible. Même lorsque vous lisez les lettres qui sont écrites aux sept églises dans l'Apocalypse, ce n'est pas une lettre qui est écrite pour des croyants, mais à l'Église visible. Il y en a qui se font menacer d'aller dans la grande tribulation là-dedans. Puis on voit que c'est des gens qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, mais ils font partie du christianisme visible. Jésus va donner la parabole d'un petit arbre qui n'est pas supposé de devenir très grand, mais qui devient anormalement trop grand, puis les oiseaux du ciel viennent se percher dans ses branches. Donc, c'est quoi ça, anormalement trop grand? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va voir que ça représente, ça va nous donner beaucoup de discernement pour comprendre l'Église actuellement, celle qui paraît et ceux qui sont sauvés. Hein? Donc, ça va être important, ça. On pourrait dire que les paraboles qu'on va étudier dans les prochains temps, c'est la description de ce qui se passe sur la terre quand le roi est absent physiquement. Donc, en son absence physique, parce qu'il n'est pas encore le roi qui règne à Jérusalem, comment est-ce que ça se passe dans la cabane, un peu comme ça. Donc, en conclusion, c'est quoi ça? Ah, ben Paul, il dit aussi, par rapport au mystère caché, il dit que de l'Église, il était fait ministre de l'Église, selon ou pasteur de l'Église, selon la charge que Dieu lui a donnée auprès d'eux, afin de leur annoncer pleinement la parole de Dieu, qui est, qu'est-ce qu'il doit leur annoncer? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé ou dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, encore une fois, parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu habite dans les hommes et que ces hommes-là fassent partie juifs et non-juifs d'une même entité qui s'appelle l'Église, c'est toute une nouveauté. Et Paul dit, c'est ça que j'annonce. J'annonce ça. C'est l'enseignement principal de l'apôtre Paul pour les Églises. Et vous regardez le Nouveau Testament, vous lisez Éphésiens, vous lisez Romains, vous lisez Colossiens, Galates. Tu vois que c'est sa priorité de faire comprendre qu'est-ce que cette entité-là qui est l'Église. OK, donc, conclusion. Donc, juste pour dire, ça commence quand cette période-là? Ça commence au rejet d'Israël, mais en fait, ça commence là, lorsqu'il dit qu'il commence à leur parler en parabole. Et ça termine quand? L'ère des mystères, quand le peuple d'Israël l'accepte. Et là, le royaume sur la terre commence. Donc, conclusion. Ça ici, c'est le portrait de tout ce qu'on a vu ce matin. Le village natal de Jésus ne croyait pas qui il était et ça l'a empêché Dieu d'agir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de foi. Le peuple, Jésus s'est écrit qu'il est la lumière qui venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Mais l'homme qui a des ténèbres, il ne veut pas venir à la lumière parce que ça va exposer qu'il y a des ténèbres en lui. Fait que dans Jean chapitre 1, le thème lumière-ténèbres est là dans tout l'évangile de Jean. Mais dans Jean chapitre 1, il dit, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Pourquoi ils ne l'ont point reçue? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas avoir de lumière sur eux. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs oreilles. Quand c'était le temps d'être enseigné, ils ont fermé leurs oreilles. Quand c'était le temps de discerner, ils ont fermé leurs yeux. Et qu'est-ce qu'il y a? Leur cœur s'est endurci. Ils n'ont pas été capables de comprendre. Jésus continuait, blablabla. Lui, il a continué à enseigner. Lui, il n'a pas changé son programme. Il a continué à enseigner sur le royaume de Dieu. Mais eux, c'est comme devenu des lettres qui se mélangent quand Jésus a commencé à parler en parabole. Pourquoi? Parce que quand c'était le temps d'étudier, quand c'était le temps de prendre des cours, quand c'était le temps d'entendre l'enseignement, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Puis, ça a empêché Jésus de régner spirituellement sur leur cœur. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? À ceux qui l'ont reçu. Donc, il est venu chez les siens qui étudiaient la Bible, qui étaient supposés d'être des disciples, ne l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a une puissance qui dépend de vous, qui dépend des hommes. Dieu est sur son trône, lui, il règne éternellement, puis ça chlingue sa terre. Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu est souverain dans les cieux, mais moi, je fais ce que je veux. C'est ça le problème. C'est que moi, je fais ce que je veux. C'est pour ça que quand on prie, il faut dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle l'est faite au ciel. Au ciel, les anges ne s'ostinent pas avec Dieu. Dieu dit, c'est comme ça que ça marche, c'est ça qu'il faut faire. Puis les anges sont comme ça. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui se sont ostinés. C'est à leur perte qu'ils ont fait ça. Donc, dans son village, Jésus dit, je peux pas faire de miracle. C'est-tu parce qu'il n'est pas capable d'en faire? Non, c'est parce qu'il ne voit pas la foi. Jésus vient sur la terre, il est empêché d'implanter son royaume qui devait s'implanter. Jésus disait, le royaume est proche. Jean-Baptiste disait, le royaume est proche. Les disciples allaient deux par deux, le royaume est proche. Elle leur a été enlevée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure à laquelle ils ont été visités par leur roi. Et donc, ce temps-là est devenu comme un genre d'élastique. Puis on ne sait pas, tu sais, ça dure-tu 2000 ou 4000 ans, cette affaire-là? On ne le sait pas, mais Jésus nous dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit, puis il va venir quand on s'en attend le moins. Si on savait à quelle heure que le voleur rentrerait, on l'attendrait. On le filmerait, on barrait nos portes, on saurait que, tu sais, il faut être en sécurité. Que si on savait le jour, ben crime, on vivrait n'importe comment. Puis là, quand il est juste sur le bord d'arriver, on le marcherait avec lui. Hein? Mais non, c'est pas ta barouette. Peut-être que toi, c'est un char qui va, un avion qui va t'écraser dessus, ça a 20 aujourd'hui. Ben, c'est pas ça que je vous souhaite. Hein? C'est pas une prophétie, là, hein? Non, mais il va arriver quoi? Tu vas te fouler une cheville, tu vas te tomber à la tête sur un crayon, puis là, tu vas mourir. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous arriver, mais peut-être que demain, aujourd'hui, c'est le jour de votre rencontre avec Dieu. Puis Jésus, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit toujours prêt pour le recevoir, pour son royaume, et qu'il règne sur nos cœurs maintenant, ici et maintenant. Donc, son règne spirituel qui se fasse maintenant. Dans nos cœurs. Donc, comment est-ce qu'on l'empêche de régner? C'est si on ne place pas notre confiance en lui. Bon, si on est sauvé, on est sauvé. Mais c'est à nous, quand même, qui l'avons reçu. Une fois qu'on l'a reçu puis qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est quand même à nous autres de dire, OK, est-ce que je place ma confiance en Dieu pour qu'il puisse faire des miracles, pour qu'il puisse agir dans ma vie? Les paraboles qu'on va étudier dès la semaine prochaine vont nous donner des instructions et de la sagesse pour les temps dans lesquels on vit. Puis je vais finir avec un verset. Tournez avec moi dans Romains, chapitre 13. Ça, c'est vraiment les temps de la fin. Paul, il dit au verset 11. Là, Paul, là, imaginez Paul, là, il est au temps de la fin, lui, là. C'est comme Jésus sur le bord. Puis c'est ça pour nous autres aussi. C'est encore plus vrai pour nous que quand Paul l'a dit. Il dit, c'est le temps, il dit de s'aimer les uns les autres. Okay? Puis après ça, il dit, cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Paul y compare maintenant à quand il a cru. Le salut, il dit le salut. Hein, le salut? Paul n'est pas sauvé. Oui, mais le corps, on n'y est pas encore sauvé. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance, c'est quand le Messie va venir puis il va donner la paix sur la terre puis il va régner. Hein? Il dit ici, le salut est plus près que le moment où nous avons cru. Verset 12. La nuit est bien avancée. Le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, il y a encore une fois, il y a ce thème-là des ténèbres qui est là. Donc, l'appel ici, c'est aux croyants de dire, OK, le jour est avancé. Est-ce que vous discernez qu'on est dans un monde de ténèbres? Présentement, on est dans le siècle des préférences naturelles. On est dans le siècle de « moi, je veux faire ce que je veux ». C'est un siècle ténébreux parce qu'on ne veut pas d'un roi qui règne sur nous. On ne veut pas le servir, on veut se servir. On est dans un siècle où c'est difficile d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est un siècle de ténèbres, de dire « sais-tu quoi, je ne vais pas me choisir moi et ce que je préfère parce que j'ai reçu le Saint-Esprit pour ne pas être obligé de faire ce que je veux. Fait que je ne ferai pas ce que je veux, je vais faire ce que Dieu veut. » C'est un siècle de ténèbres. Puis ici, le texte dit, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'étudier. Marie-Ève va venir nous parler des cours qu'on va avoir cette session ici. C'est le temps d'être instruit et de comprendre dans quel siècle on vit. C'est un siècle de ténèbres. Et puis, oui, si tu peux aller la chercher, j'apprécierais. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu as mis des pasteurs comme des avertisseurs de fumée. Tu as mis des pôles, des gens qui nous ont écrit la parole, Seigneur Dieu, pour nous avertir que ce n'était pas le temps de dormir parmi les morts, mais c'était le temps de se réveiller. C'est le temps de connaître Dieu, de comprendre les temps dans lesquels on vit, et de réaliser que tu es comme un voleur qui va venir dans la nuit. Tu vas revenir pour ton Église. Puis que ce monde, Seigneur Dieu, n'est pas, c'est pas notre maison. Ce monde-ci, présentement, c'est un monde tremplin. Puis on va voir faire face à ce Dieu-là qui est miséricordieux et bon, qui pardonne, qui relève, qui fortifie et console, mais ce Dieu aussi qui veut être le roi. Il est mon père, il m'aime, mais il est mon roi, puis il a le droit d'être obéi. Seigneur, tu as dit, quand le Fils de l'homme va venir dans la dernière génération, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Je prie pour vous ce matin afin qu'on réalise que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu qui est capable de régner sur nos vies et sur les situations de nos vies. Qu'à Nazareth, il n'a pas pu faire de miracles parce qu'on était familier avec lui, parce qu'on n'avait pas la foi en lui qui il est et ce qu'il pouvait faire. Dans votre vie aussi, Dieu peut agir et faire de grandes choses. Mais encore faut-il croire qui il est, sa nature, son nom et ce qu'il peut faire. Je vous encourage, je vous en contrains d'étudier la parole, de la lire et de comprendre qui est Dieu afin de mettre votre confiance, pas dans le petit-fils de Marie ou le petit bébé de plâtre qu'on a en dessous du sapin, mais le Dieu créateur des cieux, Jésus-Christ, par qui et pour qui on doit vivre. Amen. J'invite Marie-Ève pour les cours.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.